Merci beaucoup d'être venu écouter Christian Gasset et Jean Hémer nous parler de Montaigne. Malgré la concurrence de Maryse de Carangal dans la salle au-dessus, je vois que nous avons fait le plein, donc je suis très content. Voilà, c'est très bien. Ça prouve aussi combien et Jean Hémer et Christian Gasset et le sujet et Michel de Montaigne sont populaires à Bordeaux, ce dont je me réjouis beaucoup. Voilà, nous étions, Jean, il n'y a pas très longtemps, dans la salle au-dessus pour entendre parler de Montaigne. C'était Philippe Dessan qui était là. Philippe Dessan qui nous parlait de Montaigne, le Montaigne, un portrait social. Alors, c'était beaucoup plus sérieux. Ce qui ne veut pas dire que le livre dont nous allons parler ne le soit pas, sauf qu'il est sérieux d'une autre façon. D'une façon, je dirais, plus malicieuse, plus illustrée, peut-être un petit peu plus distanciée aussi. Voilà, donc je ne sais pas s'il faut que je présente Jean Hémer et Christian Gasset. Jean Hémer, donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc, est à la fois un auteur maintenant et puis un journaliste que nous connaissons bien à Sud-Ouest. Je vois dans la salle beaucoup de têtes connues de la grande maison. Jean, tu as dirigé la rédaction de Sud-Ouest Dimanche. Tu as dirigé aussi le département des suppléments de notre journal. Voilà, tu es parti il y a quelques années pour vivre très activement cette retraite que tu consacres en partie à l'écriture, pas seulement, je sais. Et puis donc avec la complicité de Christian Gasset, son dessinateur éminent et qui a à nouveau prêté sa plume, elle aussi malicieuse, donc à ce Montaigne. Ce Montaigne que vous avez peut-être déjà découvert, que moi j'ai découvert donc là, il y a 15 jours en ouvrant ce livre. Montaigne, un essai. Alors évidemment, Jean, la première question face à un sujet aussi impressionnant que Montaigne, même si l'homme refuse toujours de nous impressionner, s'attaquer à un sujet aussi impressionnant, voilà, ça mérite peut-être quelques explications.
Je suis surtout impressionné par votre présence, et je vous en remercie. Ne m'attendez pas à faire ça le comble, c'est rare, paraît-il, et donc merci beaucoup. Impressionné par Montaigne, oui, bien sûr. Écoutez, excusez-moi, c'est difficile apparemment. Impressionné par Montaigne depuis l'âge de 15 ans, je crois, quand on le découvre dans La Gare des Michards. C'était du moins le livre clé à l'époque. Donc c'était la personne, c'était intouchable, c'était le commandeur, la statue du commandeur Montaigne. Il a fallu des circonstances très particulières pour que je me penche sur son travail, sur ses essais. Une fois à l'âge adulte, très tard donc, je ne suis absolument pas montaigniste. J'ai découvert Montaigne réellement il y a 2 ans et demi lorsqu'un éditeur m'a demandé si j'étais d'accord pour écrire sur Montaigne. Comme j'étais dans une sale situation, pas financière, mais de santé, je lui ai répondu « pourquoi pas ?» Et me voilà embarqué dans des lectures folles. Montaigne, bien sûr. Montaigne, non pas dans le texte du XVIe siècle, parce que je suis absolument incapable d'apprécier Montaigne mais dans les adaptations en français moderne, soit chez Arléa, soit chez Quattro, soit un peu sur Internet, une version que je recommanderais si je l'avais lue réellement, mais qui m'a semblé tout à fait intéressante. Elle est de Guy de Pernon, c'est un ancien instituteur devenu universitaire sur le tard et qui s'est pris de passion pour Montaigne. Et il a donc décidé de traduire, lui, Montaigne, et non plus de l'adapter. Parce que l'adaptation du français du XVIe siècle, tel qu'on ose le faire aujourd'hui, avant peut-être d'autres adaptations à venir, et notamment une bordelaise pour l'an prochain, cette adaptation-là ne permet pas aux jeunes gens d'aujourd'hui d'entrer dans cette langue qui est trop compliquée, qui est encore prisonnière de la structure latine, et d'autant qu'il y a des mots qui ne sont pas traduisibles, beaucoup de faux amis chez Montaigne, on peut donc ne pas le comprendre aisément. J'ai donc lu Montaigne sous ces formes-là, difficiles, et ça m'a donné l'envie d'écrire quelque chose qui pourrait plaider pour un Montaigne proche de nous, et surtout des jeunes gens d'aujourd'hui, qui en sont privés, alors que la modernité de Montaigne, ça, c'est un peu connu, elle est formidable, elle nous parle, parce que Montaigne parle de l'homme, et depuis Cro-Magnon, finalement, l'homme n'a pas changé, et nous restons ce que nous fûmes.
Donc, alors, il y a à côté de toi Christian Gasset, là, qui est un dessinateur. Rendre Montaigne proche de nous, ça aurait pu. Donc il y a des dessins dans ce livre. On le découvrira dans chaque chapitre, au début, à la fin, des petits médaillons aussi. Mais est-ce que l'idée ne vous était pas venue de peut-être traiter Montaigne sous l'angle d'une bande dessinée, par exemple? Christian Gasset.
Absolument pas. Moi, c'était uniquement dans un cadre d'illustration et dans un cadre de dessin d'humour ou dessin de presse que j'ai officié. Une bande dessinée, non, ça ne me tentait pas. C'est un mode narratif qui ne m'est pas familier et auquel je n'accroche pas. J'aime une image forte seule.
Et Jean, l'idée t'a traversé l'esprit ? Ou pas particulièrement?
D'une BD, non, parce que non. Je me suis lancé dans l'écriture pour une écriture qui n'était pas destinée du tout à être résumée, à être raccourcie en images. Pas du tout. J'ai fait un texte qui voulait se tenir en lui-même. Mais j'avais besoin du dessin. Et ça, j'ai insisté auprès de l'éditeur. Il était indispensable qu'il y ait un dessin. Parce que si vous ouvrez le livre, vous verrez que le narrateur, il y a un narrateur, est un peu particulier. Et il fallait donc maintenir le lecteur à distance. Et donc, le dessin était indispensable pour cela.
Alors justement, il y a comment rendre Montaigne plus proche de nous. Bon, sa langue, évidemment, une fois adaptée, on en parlera tout à l'heure. L'adaptation de Montaigne, c'est un grand sujet. Mais en tout cas, le fait de parler de Montaigne dans une langue d'aujourd'hui et de le traduire aussi, parce que certains passages sont traduits dans une langue d'aujourd'hui, évidemment, nous le rend très proche. Mais il y a aussi, grâce à la malice de Jean, un artifice de présentation. Cet artifice de présentation, ça consiste à introduire, à côté du lecteur que nous sommes et du narrateur qui il est un autre narrateur un peu plus mystérieux qui est en fait un fantôme qui se promène à travers le livre. Je ne sais pas où Jean l'a rencontré, si c'était une nuit en allant dormir dans la tour de Montaigne peut-être. En tout cas ce fantôme se balade. Comment est venue cette idée de nous hanter à travers un fantôme?
Elle est venue par la nécessité de d'écrire de façon rapide et d'essayer de me rapprocher du lecteur avec une écriture un peu vive. Et pour cela, la meilleure façon, ai-je pensé, c'était d'écrire à la première personne. Je n'allais pas quand même me prendre pour Montaigne. Je n'allais pas faire parler Montaigne directement, parce que la prétention a quand même des limites. Donc, le plus simple, c'était de faire parler son fantôme. Parce que son fantôme présente en plus cet avantage incroyable, c'est que lui, il traverse les temps. Donc, il peut parler d'aujourd'hui également. Il peut parler à la place de Montaigne, mais il peut parler aussi de Montaigne à travers le temps, à travers l'usage qu'on en fait. Donc c'était tout simplement... Je n'ai pas eu besoin d'herbes ou d'autres adjuvants pour arriver à la solution du fantôme. Et je l'en remercie d'ailleurs.
Bon, pour le dessinateur, le fantôme, c'est plutôt une bonne entrée.
C'était une excellente entrée parce que ça permettait effectivement d'avoir cette distance que cherchait Jean. Et effectivement, graphiquement, moi, je me suis amusé à essayer de faire un fantôme un peu comme dans des estampes japonaises, cette espèce de chose filiforme qui file un peu partout et qui file dans la bibliothèque essentiellement, puisque j'ai essayé de le mettre essentiellement dans sa librairie.
Alors Jean, évidemment, il y a à la fin du livre une bibliographie assez touffue qui est en fait la liste de tous les ouvrages que tu as consultés avant de te lancer dans cette grande entreprise. Bon, tu te doutes bien que au milieu de tous ces montaigniens, il y en a des très éminents, il y en a partout, il y en a beaucoup, il y en a des très très forts. Bon, c'est quand même, tu ne t'es pas dit il y a que des coups à prendre dans une affaire pareille. Quand même, j'arrive, moi, j'ai lu Lagarde et Michard, mais voilà, c'est quand même culotté, quoi, si j'ose dire.
Mais écoute, j'attends d'abord que les coups viennent de ta part. Et j'espère qu'ils vont venir. Non, évidemment, c'est incroyablement audacieux et intrépide et tout ce que l'on veut. Et il faut être un peu nigaud pour oser écrire sur Montaigne, à Bordeaux, quand on n'est pas soi-même universitaire distingué. Bon, j'ai pris ce risque, j'assumerai. Il faut dire que Montaigne, à Bordeaux, il est bien aimé, mais quand Jean Balsamo est venu l'an dernier parler de Montaigne, ici, animer des ateliers d'écriture, il y avait moins de public pour l'écouter et travailler avec lui qu'il n'y en a ce soir ici. Donc, idem, lorsque Philippe Desan est venu il y a quelques semaines ici, au-dessus, il y avait encore moins de public. Donc,
j'en atteste, on était quand même assez nombreux. Si, si.
Oui. Hein? Oui, oui, oui.
Non, mais... D'ailleurs, tu étais là.
Oui, j'étais là. Donc, ce qui prouve que vous êtes venu pour nous, et encore merci, mais aussi, j'espère quand même, pour ce Montaigne qui n'est pas du tout universitaire, qui n'est pas du tout dans les clous et qui est vraiment hors sentier. On verra.
Il est un peu rugbyman, il m'a semblé. Non, je dis ça parce que d'abord parce que Montaigne a le crâne un peu ovale, Christian, son crâne. Il y a aussi ce côté gascon intrépide qu'on aime bien sur les terrains de rugby. Et puis de temps en temps le fantôme lit Midi Olympique dans les couloirs du château de Montaigne. Il a l'air de bien aimer le rugby. Alors on jouait à la soule à l'époque, non?
Non, je ne sais pas si on jouait à la soule déjà, mais le fantôme lit Midi Olympique, tout simplement, c'était une adaptation du français du 16e, qui était celui de Montaigne, au français d'aujourd'hui. Et je me suis dit que, pour les essais, le fantôme ne pouvait lire que Midi Olympique, puisque c'est le journal du rugby. Voilà, c'est tout. C'est une blague entre mille autres blagues.
Bon, encore d'ailleurs une perche tendue à Christian Gasset, parce que c'était plutôt aussi...
C'est une perche que je n'ai pas pris, effectivement. L'aspect rubistique des essais, entre guillemets, j'ai essayé de m'en éloigner pour rester dans un Montaigne, j'allais dire, plus poétique, plus dans le livre, plus autour de son livre, quoi, et autour de ses. Mais j'ai peu joué sur cet aspect-là.
Alors Jean, tu aurais pu, béotien avoué, mais qui se soigne, tu aurais pu choisir quelque chose comme le Montaigne pour les nuls, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, enfin bon, une approche un petit peu, une approche de base plutôt drôlatique. Alors le livre est très drôle, en même temps il est pas seulement drôle, c'est-à-dire qu'il est drôle dans le sens où le ton est joyeux, le ton est léger, parce qu'il va très bien Montaigne, hein, on peut même dire un peu sautillant, mais enfin tu plonges quand même dans le dur. La vie de Montaigne elle est compliquée, d'abord c'est une époque qui est une époque qui est tragique, hein, l'époque des guerres de religion. Bon, il y a toute cette violence qui est derrière, il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a la mort aussi qui est présente en permanence. Donc bon, c'est pas une époque où l'on a envie forcément de se tenir les côtes, de se tordre de rire. Alors évidemment l'avantage c'est que Montaigne lui quand même il prend toujours le parti non pas d'en rire mais un parti particulier. Comment tu le qualifierais, ce parti pris que Montaigne a toujours dans sa façon de raconter, se raconter lui-même et de raconter l'histoire, lorsqu'il peut raconter l'histoire?
Il ne la raconte pas, celle de son siècle. Par exemple, sur le massacre de Saint-Barthélemy, vous ne trouvez rien dans les essais, strictement rien. Donc, il n'a pas voulu se faire
historien. Je pense à son histoire, oui. Son histoire familiale.
Oui, mais même son histoire familiale, il n'en parle pas beaucoup. Il parle de son père, il parle quasiment pas de sa mère. Après, il parle juste un peu de sa femme, de sa fille, quasiment pas non plus. Il n'en parle pas. Il a fait son autoportrait, Montaigne. C'était pas un historien, c'était pas un romancier. Il a fait son autoportrait, mais comme il n'était pas peintre, ben finalement il a pris un stylo, enfin une plume. Montaigne, par rapport au siècle, il a Là, on l'a fait se réfugier très vite dans sa tour d'ivoire pour se tenir à l'écart de la société. Ça, c'est la gare des Michards. En vérité, Montaigne, il a été plongé dans son siècle et plongé très au premier plan, puisque entre le roi, entre Navarre, Henri de Navarre, qui allait devenir donc Henri IV, et il a servi d'intermédiaire, peut-être pas le plus essentiel des intermédiaires, mais enfin, comme le Henri III connaissait les liens qui rattachaient Montaigne à Navarre, le roi l'a utilisé. Et quand les autres diplomates ne pouvaient pas y arriver. Donc ça, c'est une qualité reconnue par le roi de Montaigne qu'il a utilisé donc comme diplomate. Or, Montaigne, j'en profite, je fais là une petite parenthèse, Montaigne n'avait rien d'un diplomate, puisque Montaigne disait la vérité. Imaginez un diplomate dire la vérité. C'est quand même un peu antinomique, tout ça. Mais,
tu parles à un fils de diplomate, hein, attention.
Oui. Bon, mais...
Attention.
Mais j'ai dit que j'attendais les coups. Donc... dans cet entre-deux, Montaigne était en fait tout à fait à son aise parce que il était devenu quelqu'un de modéré, ce qui n'était pas dans sa jeunesse. Montaigne a été un peu excessif, un peu gascon, sans chaud. Il s'est pas bataillé physiquement, mais verbalement, il a pu le faire. Ça a pu lui jouer des tours dans sa carrière, notamment à Bordeaux, quand il était magistrat. Puisque Montaigne, pendant 13 ans, a porté la robe et était magistrat. Montaigne, s'il n'était pas diplomate en sa jeunesse, l'est devenu quand même, bien qu'il continuait à dire la vérité aux uns et aux autres. Et finalement, le roi et Navarre l'appréciaient en cela, parce qu'il n'était pas courtisan. Et ils savaient que lorsqu'ils entendaient de la bouche de Montaigne une phrase sur la politique menée dans le royaume à ce moment-là, ils savaient que Montaigne la pensait vraiment, et même si elle était désagréable à entendre. Donc c'était un personnage quand même important.
On a parlé tout à l'heure de la venue de Philippe de Sens, c'était il y a 3 semaines, qui avait beaucoup insisté sur le fait que Montaigne, au-delà des présentations usuelles qu'on en fait, comme d'un homme retiré du monde et se penchant exclusivement sur son moi, était en fait un être profondément social par bien des aspects, et puis aussi par la mécanique même de la société, du lien social, enfin de la façon dont la société se constitue. Mais sur ce point de vue, je pense que tu peux être d'accord avec lui pour dire que Montaigne, c'est, et d'ailleurs on le voit dans ton livre, c'est un personnage qui est dans son siècle, il voyage beaucoup, il est maire de Bordeaux, il est diplomate, il a une famille, il s'occupe d'un château, il a des domestiques, il s'occupe d'une propriété, enfin voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui est très occupé et qui a des liens sociaux, qui est enserré par tous les liens sociaux possibles et imaginables. Qu'est-ce que tu as envie de dire justement sur cette articulation entre le Montaigne, retiré et puis le Montaigne engagé, quoi.
Ben, il suffit de lire Montaigne. À propos de quand il était maire de Bordeaux, il disait Montaigne et le maire de Bordeaux sont deux. Voilà. Donc Montaigne savait bien séparer ses activités. C'est une qualité incontestable chez lui. Pour le reste, quand il était maire de Bordeaux, il ne faut pas croire quand même que c'était comme maintenant.
D'abord, Bordeaux n'avait que 25 000 habitants, je crois.
Oui, 25 000, oui. Deux fois moins que Toulouse. Paris, 325 000, je crois, à l'époque de Montaigne. Mais quand Montaigne fut donc le maire de Bordeaux, c'est d'abord non pas qu'il avait fait une campagne effrénée pour le devenir, parce que Montaigne a appris...
En fait, il l'apprend en voyage.
Oui, hein. C'est lors de sa grande tournée en Europe, il apprend en Italie, quand il était au bain à Luc. Voilà. Il apprend donc qu'il a été élu maire de Bordeaux. En fait, il a été désigné par le roi maire de Bordeaux. Le roi souhaitait qu'il prenne cette position pour mieux servir d'intermédiaire entre lui et Navarre. Parce que Bordeaux, à l'époque, est menacé de tomber chez les ultra-catholiques, c'est-à-dire la tendance de Guise, c'est-à-dire l'opposition au roi. puisque le roi, à ce moment-là, parce qu'il faut dire qu'Henri III, il a quand même eu une position. Montaigne était un poisson, il disait qu'il était ondoyant, mais le roi, lui, c'était une anguille, c'était incroyable. Tout ce qu'il. Sa politique était vraiment plus que condoyante. Donc, Montaigne est désigné par le roi avec l'accord de Navarre. Et il est donc maire de Bordeaux. Mais en tant que maire de Bordeaux, Montaigne était surtout seigneur de Montaigne. Il vivait la plupart du temps dans son château. Et dès que les Jurats l'appelaient pour régler une affaire, Montaigne trouvait tous les prétextes pour ne pas venir. Soit un mal de dents, soit une inondation subite de la Dordogne. Je vous rappelle, il n'y avait pas de pont à l'époque, il fallait donc traverser le fleuve. Et Montaigne, en plus, avait le mal de mer et il avait horreur de traverser les barques, la rivière, pour revenir à Bordeaux. Donc Montaigne n'était pas assidu à sa tâche, il était très dilettante, ce qui lui permettait de penser. Il ne s'est pas laissé accaparer par ses occupations diplomatiques, guerrières, parce qu'il a été également guerrier. Il ne s'est pas laissé accaparer non plus donc par cette occupation de maire. Il a été maire, je rappelle, pendant 4 ans, ce qui était déjà beaucoup à l'époque, puisque habituellement, les mandats étaient de 2 ans, et lui, il a été réélu, ce qui était rare. Donc il devait quand même faire l'affaire.
On l'aurait bien vu, maire de Périgueux, peut-être, ou de Sarlat, hein, plus que de Bordeaux. On va y revenir à cause d'Étienne de la Boétie. Mais je me tourne vers Christian Gasset. Alors, le Montaigne que vous avez eu envie de croquer, là, c'est les deux. Hein, c'est un peu c'est le solitaire, et puis c'est aussi le cavalier, le voyageur.
Oui, enfin, moi, essentiellement, oui, je l'ai croqué effectivement en voyageur dans une espèce de pastiche d'affiche de voyage italien.
Oui, alors pour le voyage en Italie.
Pour le voyage en Italie, mais toujours avec des éléments de livre. Il tient un livre, le fantôme, pardon, tient toujours un livre, et j'ai toujours voulu le mettre en rapport avec le texte, avec les livres, même sa fraise. J'ai pas pu m'empêcher de la concocter avec des pages, des essais. J'ai toujours essayé de le remettre dans cette position du livre.
Donc à Montaigne, mais à Montaigne toujours quand même plutôt drôle, plutôt. Mais,
oui, plutôt, oui, plutôt avec un léger décalage.
Un léger décalage,
mais toujours quand même dans son monde. C'est peut-être pour me venger des Lagarde et Michard, ouais. Peut-être simplement.
Alors on pourrait aussi décrire Montaigne comme un personnage un peu souffreteux. Jean a signalé tout à l'heure qu'il s'était attaqué à Montaigne alors que lui-même avait quelques petits soucis de santé à ce moment-là. Mais alors Montaigne, lui, bon, on sait ce qui est connu de tous, c'est qu'il avait la maladie de la pierre, hein, donc des coliques néphrétiques, comme on dirait aujourd'hui. C'était épouvantable d'ailleurs. Il avait des crises en permanence, donc il a fait beaucoup de séjours dans les stations thermales pour essayer de soigner sa pierre. Mais il n'y avait pas que ça, hein, Jean. Il avait pas mal de soucis de santé, ce pauvre Montaigne.
Oui, non. Son père avait la même maladie. Hein, le père, à l'âge de 64 ans, ou 68 ans, je ne sais plus.
Je crois que c'est 68, oui.
68, oui. A eu sa première crise de colique néphrétique.
Ce qui, pour l'époque, était... Bon,
oui, ah, non, 68 ans, c'était tard, oui. Montaigne, lui, c'est autour de la quarantaine. Donc, c'est beaucoup plus tôt. Et il en a souffert de façon... s'il y a des personnes qui ont eu des coliques néphrétiques, vous savez ce que c'est. Et à l'époque, on n'avait certainement pas les médicaments pour les traiter lors des crises. Donc, c'était épouvantable. Et ça, Montaigne, les lecteurs de Montaigne peuvent se plaindre qu'il avait tout le temps 1000 bobos, qu'il se plaignait et tout ça. Mais vu la gravité du mal dont il était atteint, moi, je le trouve finalement extraordinairement courageux. Et c'est un courage, d'ailleurs, que l'on peut lui prêter en toutes circonstances. Montaigne était un type courageux. L'histoire de la peste à Bordeaux, donc il a fui lâchement alors qu'il était maire de Bordeaux, ça demande quelques explications.
Mais alors justement, peut-être, puisqu'on parle de la santé, il y a chez Montaigne le bon usage des maladies d'une certaine façon, puisque donc Jean vient de le signaler, c'est un type courageux. Il a pas mal d'affections et alors donc quand il prend les eaux, il en profite quand même pour. Il sait que ça va pas être très très efficace. Il s'en rend compte d'ailleurs. Il se rend compte que boire de l'eau, il est même potomane à certains moments. Il boit. Mais enfin, il sent bien qu'il compte même les calculs qui lui sortent du corps. Bon, il les aligne comme ça. Il se dit, je me sens pas forcément mieux, mais enfin, au moins, si j'en avais pas pris des eaux, ça serait peut-être pire. Donc, il y a quand même à travers cette anecdote, il y a quand même une forme de un peu la sagesse de Montaigne qui se manifeste. Hein ?
Oui, absolument. Mais Montaigne craignait les médecins plus que la maladie, sans doute. C'était l'époque. Bon. Cette maladie qui était constante chez lui, qui l'empêchait d'avoir toute la liberté d'être, d'agir, de se promener, de voyager, il en a tiré sans doute une sagesse, une connaissance d'abord de cela. Son portrait, son autoportrait, c'est il a tenté de comprendre qui il était. Mais la maladie a dû beaucoup l'aider en cela. Parce que lors de ces crises, il se voyait souffrant et il n'a jamais essayé d'échapper à cette douleur. Il a essayé de la maîtriser par l'esprit et donc ça lui permettait d'essayer de contrôler cette maladie en se contrôlant lui-même. Donc il a acquis beaucoup de savoir le concernant.
Et alors il dit aussi quelque part qu'il n'avait pas peur de la mort. C'est des discussions qu'il avait avec Étienne de la Boétie, qui fut son grand ami et qui parti trop vite, puisque Étienne de la Boétie, qu'il avait rencontré donc à l'âge de 24 ans, est lui-même mort à 33 ou 34 ans, je ne sais plus.
32 et quelques mois.
32 et quelques mois, voilà. Après 4 ou 5 années d'immense amitié. Donc Montaigne avait assisté à l'agonie de son ami pendant 10 jours dans le Médoc. Il dit quelque part que entre lui et la Boétie, c'est peut-être un des rares points de désaccord. Montaigne, lui, dit que ne pas craindre la mort. Et tu racontes dans ton livre ce moment où il a un accident de cheval extrêmement grave, où il reste étendu, il est étendu pour mort lors d'un accident. Et puis donc il revient à la vie. Et au fond, il dit de la mort. La mort est comme j'ai noté la phrase parce qu'elle est jolie. La mort fait l'éloge de la vie comme la nuit fait l'éloge du jour.
C'est-à-dire, oui, voilà, c'est de Pétrarque, ça.
Voilà. Alors, Montaigne reprend cette phrase à son compte. Alors, c'est là aussi, il y a une particularité de Montaigne.
Oui. Mais ça, le fantôme prête à Montaigne cette phrase de Pétrarque. Vous ne la trouverez pas dans les essais. Mais bon, c'est une façon habile pour moi de sortir, habile, je crois, de sortir du chapitre.
Bon, de toute façon, oui. Donc, il était pénétré de la sagesse des anciens. Il avait lu Plutarque. Il avait lu tous les anciens, et donc il en avait fait son miel. Ovide, voilà, tous les poètes grecs et latins. Tout ça, évidemment, est très présent pour lui, parce que il faut peut-être dire un mot de son éducation. Son père l'enseigne, lui donne un précepteur, et il apprend à parler latin avant de parler français.
Hein. Oui, à 3 ans, Montaigne est sorti de la masure où il avait été mis en nourrice et pour aller au château. Et au château, donc à 3 ans, il devait balbutier quelques mots de gascon, de patois. Et au château, au lieu de lui apprendre le français, on lui apprend très directement le latin. Alors le père de Montaigne lui paye très cher 3 précepteurs, un principal, un allemand, qui ne parlait pas un mot de français. Donc ça, il était certain au moins qu'à travers précepteur principal, il n'apprendrait pas le français. Et 2 autres précepteurs qui avaient pour mission donc de parler uniquement le latin. Tout comme Montaigne, le père Montaigne lui-même ne devait s'adresser à son fils qu'en latin, la mère à l'identique et une ou deux servantes également. Vous imaginez bien que ce latin n'était certainement pas celui de Cicéron. Mais bon, c'est comme ça. Et lorsqu'à 6 ans, le jeune Montaigne intègre le collège de Guyenne à Bordeaux,
C'est un latiniste émérite.
Plus que distingué, puisqu'il parlait mieux le latin,
que ses professeurs.
Dit-il, que ses professeurs, qui essayaient de l'éviter entre les cours, dans les couloirs du collège, pour ne pas être ridiculisé par la beauté de la langue du petit Montaigne. Voilà.
Alors, c'est même à se demander pourquoi Montaigne n'a pas écrit les essais en directement en latin, puisqu'en fait, on les aurait traduits directement en français moderne, et on n'aurait pas tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Mais enfin, il a voulu les écrire en français, et évidemment, c'est un manifeste. Écrire les essais en français, c'était à l'époque un manifeste. Je rappelle que l'édit de Villers-Cotterêts, c'est 1539, donc la généralisation du français dans le royaume, ça date grosso modo de la naissance de Montaigne. Donc le français n'est très peu fixé, et la langue de Montaigne en porte témoignage. Pourquoi a-t-il voulu absolument écrire ses essais en français ?
Pour plaire aux dames, sans doute. Enfin, c'est une... c'est ma version, ou du moins celle du fantôme. Non, tout simplement aussi pour faire honneur à la langue française qui était en train de se fixer, d'évoluer. Mais il a écrit lui-même qu'il ne pensait pas écrire pour des lecteurs au-delà de 50 ans. Pas des lecteurs de plus de 50 ans. Il n'avait pas déjà le TF1 chez lui. Mais tout simplement, il pensait que dans 50 ans, sa langue ne serait plus
comprise,
compréhensible. Et donc, il a écrit en français pour échapper aussi au latin des Sorbonnards, parce que Montaigne n'aimait pas trop les doctes. Et Montaigne écrivait pour peu de gens, c'est vrai. Il a avoué aussi, parce qu'il était conscient quand même que ce qu'il écrivait, ce n'était pas à la portée de tout le monde. C'était quand même, il y a des abstractions dans les essais qui font qu'il faut un peu s'accrocher. Mais il essayait d'avoir le langage le plus simple, le plus clair, celui des commerçants du marché. Et en quoi d'ailleurs il se distinguait des autres écrivains de l'époque.
Christian Gasset a représenté Montaigne en couverture de ce livre avec une magnifique fraise. Et sur cette fraise, il y a des pages des essais. C'est une bonne idée, là, la fraise avec des pages pliées comme ça.
C'est assez graphique d'abord.
Fraise, c'est graphique.
Oui, la fraise est graphique. Mais bon, c'est une manière aussi de montrer comment dire, le personnage d'une manière un peu moins conventionnelle. Parce que c'est vrai qu'on a toujours des portraits de lui assez sérieux. Et c'est vrai que bon, cette espèce de petit décalage avec une fraise qui n'en est pas une, c'était de la gourmandise, on va dire.
Enfin, celle de la couverture est particulièrement démesurée. Hein, qu'elle devait être assez incommode en voyage.
Je pense qu'elle devait être improbable, mais elle était nécessaire pour la lecture. Bon, certainement.
Cela dit, l'idée de la fraise qui se déploie comme ça avec c'est pas si loin de la réalité de l'écriture de Montaigne, puisque Montaigne, au fil de des versions successives des essais, a ajouté des Proust aurait dit des paperoles, mais lui ça, il dit pas ça, il disait des ajoutailles, je crois, non, ou des
allongeailles.
Des allongeailles. Donc il écrivait quoi, des papiers qui collaient sur le manuscrit. Comment ça se passait?
À ça, je n'ai pas assisté.
Ah bah ça quand même.
Mais on sait en revanche qu'il a écrit. Il y a eu plusieurs éditions des essais du vivant de Montaigne. Il a publié la première ici à Bordeaux, chez Simon Milange, en 1580. La deuxième, toujours chez Simon Milange, en 82. Entre-temps, il avait fait le voyage en Italie. Donc, dans l'édition de 82, il s'est beaucoup inspiré. Il a puisé dans son voyage en Italie pour rajouter. Et ensuite, là, il y a eu une troisième édition à Paris, chez
Marie Gournay.
Non, pas du tout. Ah. Non, Marie Gournay. Non, elle arrive après. C'était l'édition de 88. Et donc, j'essaie de retrouver le nom de l'éditeur parisien, mais ça n'a strictement aucune importance. Vous avez tous les détails dans vos bibliothèques. Donc en 88, là, il a été maire de Bordeaux. Il a été très souvent, donc, il a servi de go-between, d'intermédiaire entre le roi et Navarre. On arrive donc avec... là, j'ai un trou de mémoire, mais enfin bon, les essais sont déjà presque dans la forme finale. À cela près que, après 88, et il a écrit dans les marges de son livre. Et c'est le fameux exemplaire de Bordeaux. Les allongeailles, il les a donc écrits directement sur un livre de l'édition de 88. Et ces allongeailles sont extrêmement importantes, très, très, très nombreux. Si bien que Montaigne meurt en 1592, il travaillait encore sur les essais, sur une nouvelle édition, à travers cet exemplaire de 88 sur lequel donc il notait toutes ces précisions. Et c'est Marie de Gournay, sa fille d'alliance, c'est une fan, comme on en trouve auprès des artistes, qui était très, très jeune, qui a découvert donc Montaigne en 88. Elle était à Paris. Montaigne se trouvait aussi à Paris. Elle lui fait passer un mot. Montaigne se précipite, même s'il était vieil homme, vieillard, malade et incapable de poursuivre la quête des femmes comme il avait pu le faire en sa jeunesse. Mais l'esprit de Marie de Gournay le séduit. Il la trouve tout à fait intelligente, pas très belle, mais très intelligente. Et donc, il accepte volontiers ce compagnonnage qui sera d'ailleurs l'une de mes... Pour lui, Marie de Gournay a été vraiment l'ami qui l'a accompagné jusqu'à son décès. Ça, c'est très important. Et donc, Marie de Gournay recevra en 95, à la mort de Montaigne, la femme de Montaigne enverra à Marie de Gournay une copie de l'exemplaire de 88 sur lequel Montaigne avait porté toutes ses annotations, toutes ses précisions. Et c'est ce livre, la copie qui est entre les mains de Marie de Gournay et qui publie en 1995 une nouvelle édition définitive des Essais de Montaigne.
Bon, alors je précise qu'il est question, ce fameux exemplaire de Bordeaux qui fait la fierté de la ville, et donc il est question de le classer au patrimoine mondial de l'UNESCO, si ça, bon, ce n'est pas encore fait, mais c'est dans les tuyaux. Alors, tu viens de parler de l'amitié tardive de Marie. Alors évidemment, on pense automatiquement à l'autre grande amitié de sa vie, donc Étienne de la Boétie. Il y a en page 60, Christian Gasset, un dessin d'Étienne de la Boétie, là, qui tient dans ses mains le manuscrit du discours sur la servitude volontaire qui avait ébloui Montaigne lorsqu'il l'avait lu. On n'a pas de portrait d'Étienne de la Boétie.
Non, on n'en a pas. On sait qu'il n'était pas beau.
Ouais. Donc, bon, il n'est pas si mal, là, ce jeune garçon de la page 60.
Donc j'ai essayé de faire quelqu'un de extraordinairement moche, mais voilà.
Alors, comme ces grands événements, souvent de la vie de Montaigne ou de la vie en général, ils sont pas tellement commentés dans les essais. À propos, il n'y a pas grand-chose sur Étienne de la Boétie dans les essais, curieusement. Mais enfin, il y a quand même évidemment le fameux chapitre de l'amitié dont tout le monde connaît la phrase célèbre, puisque c'est parce que c'était lui, parce que c'était moi. Un mot quand même, Jean, sur ce lien quand même qui est fondateur, parce que fondateur sur le projet de Montaigne et sur sa formation.
Oui, on s'est beaucoup interrogé sur la nature de cette amitié, si elle était homosexuelle ou pas. En vérité, ça ne présente aucun intérêt. Montaigne n'aimait certainement pas physiquement la Boétie parce qu'il le trouvait laid, carrément. Montaigne, il trouvait aussi beaucoup de femmes laides, par exemple les Italiennes. Il s'attendait, il avait entendu dire qu'elles étaient magnifiques et très peu trouvaient grâce à ses yeux. Les seules qu'il trouvait belles, en fait, à Rome, c'était les prostituées. Bon, c'était une. Je rappelle que c'était le siècle de la braguette, quand même. Pour revenir.
Et Montaigne n'était pas spécialement maladroit de ce côté-là. S'il était petit, même s'il ne mesurait qu'un mètre 57 et qu'il était un peu, comment dirais-je, il savait qu'il était petit et ça le faisait pas plaisir.
Hein. Oui, il n'y avait pas que sa taille qui était petite en lui. Mais ça, il faut demander aux dames qui l'ont fréquenté d'en dire davantage.
Enfin bon, ça l'embête pas de parler de ces choses-là, d'ailleurs.
Non, pas du tout. Non, ça, il très clairement, il donne pas les précisions centimétriques, mais il est très précis quand même à ce sujet.
Voilà. Alors, donc, La Boétie.
La Boétie. Montaigne avait 24 ans, La Boétie, 2 ans et demi de plus que lui, ou 3 ans et demi, je ne me souviens plus. Il était jeune, magistrat à Bordeaux. Ils se rencontrent et c'est le coup de foudre.
Mais voilà. Il avait été précédé, La Boétie était précédé par sa réputation auprès de Montaigne.
Bien sûr, bien sûr.
Montaigne voulait le rencontrer. Hein.
Oui, parce que Montaigne à Paris, Montaigne a fait des études à Paris. Quand Montaigne était à Paris, La Boétie avait déjà publié le discours sur la servitude volontaire. Enfin, publié, non, pas encore. Mais le manuscrit circulait donc sous le manteau à Paris, parce que c'était un pamphlet quand même contre le pouvoir absolu. Le pouvoir, on pouvait penser que c'était contre Henri III. Donc, Montaigne prend connaissance de ce texte, il le trouve très intéressant et il apprend que son auteur, La Boétie, est périgourdin comme lui, magistrat comme lui, magistrat à Bordeaux ensuite comme lui, donc il essaie vraiment de le rencontrer. Et cette rencontre a lieu à l'occasion d'une fête. Là, j'ai divagué un peu, mais bon, il faut quand même permettre au secrétaire du fantôme d'avoir ses propres fantaisies. Et donc, ils se rencontrent et c'est une amitié foudroyante, à l'ancienne peut-être virile, comme chez les Romains ou chez les Grecs. On n'en sait pas trop. Finalement, il s'est très peu exprimé sur cette amitié. Sinon, pour en parler en termes généraux, sans grand intérêt, je trouve. Parce qu'il y a un chapitre qui s'appelle « De l'amitié », et on en sort finalement quand même assez déçu, parce qu'il est extrêmement évasif. Et au fil du temps, Montaigne, qui au départ voulait organiser les essais autour des écrits de La Boétie, et au fil du temps, Montaigne s'est petit à petit retiré de cette idée, et il a retiré donc les textes de La Boétie des essais. Alors, fatigue du temps, on ne sait pas.
Alors, un des auteurs les plus commentés aujourd'hui. Enfin, donc il a eu des périodes avec et des périodes sans depuis sa mort. Mais enfin bon, aujourd'hui on est dans une période avec. On parle de Montaigne beaucoup. Alors il semble correspondre assez bien à l'esprit de l'époque. Peut-être son hédonisme, son scepticisme, son relativisme. Enfin, tout, il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent plaire aujourd'hui. Alors, mais le paradoxe c'est que on parle beaucoup de Montaigne, on en parle. Mais au fond, tu relèves, Jean, qu'on le lit pas tellement finalement. Peut-être même pas du tout. Alors c'est quoi ce paradoxe? Paradoxe, là. Le personnage Montaigne a pris le pas sur l'écrivain
Certainement. Et puis ce sont les commentateurs qui ont pris le pas sur Montaigne. Parce que Montaigne n'étant guère lisible dans la forme première, les commentateurs se sont précipités. C'est un filon extraordinaire. Quelqu'un qui ne peut pas être lu, on ne peut pas contredire son commentateur. Donc, c'est extrêmement pratique. Et comme Montaigne, on parle tout le temps de sa modernité. C'est vrai que, quand même, on retient de Montaigne aucune leçon, d'abord, mais on retient qu'il était modéré et qu'il parlait de l'homme comme peu d'écrivains ont pu parler de l'homme. Donc, cette modernité, elle est là, elle est bien là. Si on ne le lit pas, on le commente. Et on le commente, paraît-il que Cervantes et Shakespeare et Montaigne sont les 3 auteurs les plus commentés au monde. Pour les 2 étrangers, rien d'anormal, ce sont des génies. Pour Montaigne, rien d'anormal, c'est un génie, mais c'est un génie qu'on ne lit pas. Donc, il faut des traducteurs. Et les traducteurs sont les commentateurs. Il y a 1001 biographies de Montaigne, des essais à l'infini, des articles. Bref, Montaigne ne cesse d'être à la mode parce que il y a toujours une actualité en librairie, dans la presse, et il est très très commode. Il est d'autant plus commode que sa pensée, qui est complexe, qui est pleine de contradictions, fait qu'on peut lui faire dire un peu ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'on va chercher chez lui la partie qui nous convient et on l'exploite. Et de très nombreux auteurs se livrent à ce jeu et qui conduit à quelques succès de librairie de temps en temps. Et c'est ainsi que Montaigne vit. Mais ce n'est pas ainsi qu'on lit Montaigne.
Bon, enfin, c'est, la pensée de Montaigne, bon, c'est, on peut poser la question de savoir s'il y a une pensée de Montaigne, c'est pas certain. Et comme Jean vient de le relever, il dit des choses très contradictoires. Le plus certain qu'on puisse avancer, c'est qu'il nous montre comment fonctionne l'esprit humain et comment fonctionne la sensibilité humaine. Ça de ce point de vue, c'est certain. Alors ensuite, c'est une auberge espagnole, un petit peu. Mais alors, tu as posé toi-même la question qu'il faut remettre sur le tapis, c'est-à-dire comment lire Montaigne aujourd'hui? Faut-il le lire dans le texte original? Difficile, je pense qu'il y a 1000, 2000, 3000 personnes peut-être qui sont capables de le lire sans faire des contresens. Donc le lire dans des adaptations, il en existe, tu en as cité quelques-unes. Alors est-ce qu'aujourd'hui, pour les écoliers de l'an 2020 et puis pour tous les lecteurs du 21e siècle, est-ce qu'il faut traduire Montaigne? Est-ce qu'il faut adapter Montaigne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Et qu'est-ce que toi, en tant que lecteur de Montaigne, qu'est-ce qui te paraît le plus intéressant? Sans doute peut-être une adaptation plutôt.
Moi, en tant que lecteur de Montaigne, je vais vous lire du Montaigne. Je suis arrivé avec quelques biscuits.
Ah.
Je savais très bien que la question me serait posée. Donc, je vais vous lire du Montaigne. Dans son jus, pas adapté, pas traduit, mais enfin adapté quand même pour l'orthographe. C'est un passage du livre 1, le chapitre 3, « Nos affections s'emportent au-delà de nous ». Juste une phrase. « Ceux qui accusent les hommes d'aller toujours béants auprès des choses futures et nous apprennent à nous saisir des biens présents et nous rasseoir en cela, comme n'ayant aucune prise sur ce qui est à venir, voire assez moins que nous n'avons sur ce qui est passé, touche la plus commune des humaines erreurs, s'ils osent appeler erreur chose à quoi nature même nous achemine, pour le service de la continuation de son ouvrage, nous imprimant, comme assez d'autres, cette imagination fausse, plus jalouse de notre action que de notre science. »
Bon, alors, levez la main, ceux qui ont compris. Levez la main, allez, allez, allez. Bon, je vois pas une main qui se lève, c'est inquiétant.
Voilà. Ouais. Donc moi, je suis évidemment pour une traduction, mais une traduction faite par il faudra un savant, un césémiste et un poète.
Alors effectivement, oui. le livre de Jean donne des passages qui sont, alors c'est toi écrit dans notre bon français contemporain. Là, tu es l'auteur des traductions?
Non, pas du tout.
Pas du
non,
tout.
Non. Mais je crois l'avoir indiqué. Il y a plusieurs adaptations en français moderne. Arléa, Quattro, Depernon sur le net. Et puis, il existe des livres qui le présentent dans un français moderne. Par exemple, le dictionnaire de Michel de Montaigne, je crois que c'est ce titre-là. C'est Bénédicte Boudou, une universitaire, qui l'a fait. Alors, par grand thème, on peut lire Montaigne, et c'est très, très bien fait. Si j'avais un conseil à donner en tant que lecteur de tout ce qui a été, enfin de tout ce que j'ai pu lire sur Montaigne, c'est l'un des livres les plus intéressants, Bénédicte Boudou. Il existe aussi un dictionnaire de Michel des Essais. Je confonds, mais peut-être que dans la bibliographie c'est indiqué. Qui a été dirigé par Philippe Dessan, l'universitaire de Chicago.
Qui était dans ses murs il y a trois semaines.
Trois semaines. Voilà. Et qui a
qui est l'auteur d'une biographie, plusieurs biographies de Montaigne.
Oui, qui a travaillé énormément sur Montaigne et qui a pu diriger donc un dictionnaire des essais ou de Michel Montaigne, à voir, qui est prodigieux d'intérêt. Quand Philippe Dessan est venu ici, je lui ai demandé s'il y avait une nouvelle édition de livre. Il m'a dit que oui, que pour les fêtes, elle allait sortir une nouvelle édition en poche. Alors, ce qui est fort bienvenu, parce que les éditions qui peuvent exister jusqu'à présent valent, je crois, au bas mot, 175 euros. Donc là, en poche, ce sera tout à fait abordable. Et c'est très bien fait. Et on apprend mille et une choses sur Montaigne.
Et alors, puisque nous sommes dans les murs de chez Mola, et donc je ne trahis pas un secret, puisque tu en fais état toi-même, Bernard Combault, qui était cet éminent latiniste qui nous a quittés l'année dernière et qui habitait Bordeaux, s'était livré à une adaptation de Montaigne. Il a laissé un manuscrit qui va être édité par la librairie Mola dans le courant de l'année 2019.
Avec bouquin.
Voilà, donc Bernard Combault, périgourdin comme moi, fin lettré, auteur de magnifiques traductions d'Ozone et de Lucrèce, avait entrepris et achevé, avant de disparaître prématurément, une adaptation des essais pour le compte des éditions Mola, le grand libraire éditeur bordelais. Pour l'heure, je suis dans l'attente de cette nouvelle édition que l'on dit décoiffante et en laquelle je place d'autant plus d'espoir qu'elle est conduite dans une ville qui ne saurait me chercher des noises. Voilà. Donc on attend outre la traduction, l'adaptation dont tu viens de parler pour les fêtes, celle de Bernard Combeau qui devrait sortir d'après ce que dit Denis Mola dans le courant de l'année 2019. Voilà. Donc le courant montaigniste. C'est, Christian Gasset, il y a peut-être matière à revenir sur le sujet par le dessin là.
Sans problème, oui.
Sans problème.
Sans
hein.
problème. Oui. Hein?
Parce que Bernard Combeau adorait le dessin. Je me demande s'il n'y aurait pas peut-être une ouverture là.
C'est bien tenté.
Voilà, parce que le sujet, parce que mes blagues à part, le sujet est inspirant. Hein. Oui. Les essais eux-mêmes, hein, même si c'est un livre.
Voilà, disons que là, moi, mon travail, ça a été en contrepoint du travail de Jean. Donc c'était effectivement une illustration. Enfin, des têtes de chapitre du texte de Jean, mais effectivement, l'illustration des essais, bon, ce serait de la gourmandise, une grande gourmandise.
En remerciant beaucoup Jean Hémer et Christian Gasset d'être venus nous parler de Montaigne.
Merci beaucoup.